1978, ou encore une fosse dans cyanure pour se suicider. Mais la pièce préférée de Cody Frédéric reste la Fialka, une sorte de machine à écrire pour produire des messages codés.
Ça montre le savoir-faire de l'époque pour une machine analogique. Vous glissiez un papier à l'intérieur, écriviez votre message et la machine le cryptait. Une fois livré à qui de droit, la personne mettait le même papier dans sa machine qui sortait le message décodé.
Les enchères des quelques 400 articles disponibles pourraient dépasser le million de dollars. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
Merci Loïc Dorsvidania. Au revoir, très bonne journée. Il est 9h10 à l'écoute de Radio France Internationale.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie au début du XXe siècle.
Poétesse et universitaire, dont nous
amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Dans cet extrait du chapitre 5, intitulé « Où bourreau et victime en mêlent leur récit »,
pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent
terrible, je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé «
Assise près de l'incubateur ». Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Embarquons-nous aujourd'hui dans l'univers d'Hubert Mingarelli. Cet auteur, né en 1956 en Lorraine, fut un marin et un nomade. Lorsqu'il toucha terre dans les années 80, sa plume resta trempée des rêves et de la solitude du baroudeur qu'il fut. Ainsi en est-il dans cette nouvelle, Giovanni, extraite de son recueil intitulé « Océan Pacifique » paru au Seuil en 2006. Giovanni est le nom du chien, seul compagnon du narrateur sur le bateau, nom qu'il hérita de son maître disparu. Un monologue intérieur entre rêve et réalité évoque cette relation triangulaire. En arrière-fond, la mer, les lointains comme dans une BD de Corto Maltese.
Nous avions appareillé et le ciel était couvert. Le commandant n'était pas content à cause des bateaux qui rentraient de la pêche, parce qu'il nous obligeait à manœuvrer pour les éviter. Debout dans les barques, les pêcheurs nous faisaient des signes quand ils passaient sur notre travers. Ils nous montraient leurs prises. Ils balançaient de gros poissons au bout de leurs bras. Mais personne sur la passerelle n'osait répondre à leur salut à cause du commandant. Nous avons laissé les barques de pêche derrière nous, l'odeur de la terre a disparu et nous avons allumé nos feux. Le lieutenant m'a envoyé à l'arrière vérifier s'il fonctionnait. J'y suis allé et je suis resté là-bas un moment. Et j'ai regardé les lumières du port de la ville dans l'axe de notre sillage. Tous les feux de la terre ont tourné dans la nuit et ont disparu. On a annoncé la fin du poste de manœuvre dans les haut-parleurs, et puis l'appel du premier quart. J'étais du deuxième quart, et il ne commençait qu'à minuit. J'ai quitté la passerelle, et je suis descendu dans le poste d'équipage. J'étais le premier arrivé. Le chien Giovanni était couché sous la table. Il a levé la tête vers moi quand il m'a vu et il a agité sa queue. « Alors, Giovanni ?» je lui ai dit. Il avait bien fait de ne pas me suivre sur la passerelle ce soir. Le commandant m'aurait fait des histoires, ou alors il en aurait fait au lieutenant, qui m'en aurait ensuite fait. Parce que c'était rare que le commandant s'adresse directement à nous. Et à l'un ou à l'autre, j'aurais répondu que ce n'était quand même pas ma faute s'il me suivait partout. D'habitude, le commandant ne disait rien sur Giovanni. Il faisait toujours comme s'il ne le voyait pas. On ne pouvait pas savoir ce qu'il pensait de lui. Mais ce soir, j'étais sûr qu'il aurait dit quelque chose, parce qu'il était contrarié à cause des barques de pêche et qu'il était toujours tendu quand on appareillait. Je suis allé m'asseoir sur le bord de ma couchette en me demandant si j'allais dormir un moment avant de prendre mon car. Quand tous les gars du poste allaient bientôt descendre à leur tour et feraient du bruit. Ensuite, ceux qui prenaient le car à minuit, comme moi, auraient envie de jouer aux cartes. Il ferait encore plus de bruit, et la lumière resterait allumée, et personne n'oserait rien dire. Ceux qui jouaient aux cartes avaient plus de droits que ceux qui voulaient dormir. Souvent, je me pensais que le temps passerait plus vite si je jouais aux cartes avec les autres, que les jours passeraient plus vite, que la vie serait plus facile à bord. Mais je n'aimais pas ça, jouer aux cartes. J'ai décidé de ne pas dormir et d'attendre minuit, allongé sur ma couchette, en gardant les yeux ouverts. Giovanni est venu s'allonger à côté de moi et je l'ai caressé. Il avait une cicatrice au-dessus du museau et une autre près de l'œil. Je les connaissais bien, toutes les deux. C'est moi qui les avais soignées. Le chien Giovanni était depuis longtemps à bord. Personne ne pouvait dire depuis combien de temps, car nous avions tous embarqué après lui. Tout ce que nous savions, c'est qu'il portait le nom de celui qui dormait dans ma couchette avant moi, que tous les deux étaient toujours ensemble à cette époque-là, et que c'était devenu, pour ainsi dire, son chien. Puis, lorsque le vrai Giovanni avait débarqué, le chien avait gardé son nom. Tout le monde l'appelait maintenant Giovanni. Lorsque j'avais embarqué, il n'y avait que cette couchette de libre, et c'était celle du chien Giovanni. Nous l'avions partagée pendant 2 mois. Il m'avait bien souvent empêché de dormir, mais je n'osais rien dire, car le chien Giovanni semblait sacré pour tous ceux du poste. Tout le monde considérait que c'était sa couchette et non la mienne. Hatt, surtout, qui était le plus ancien après Giovanni. D'après lui, l'ancienneté du chien à bord le placer au-dessus de moi. Alors le vrai Giovanni avait commencé à devenir important pour moi. C'était à force de me demander qui il était. À chaque question à son propos, j'avais une réponse qui le grandissait. Et même souvent, je me sentais triste parce que je me l'imaginais se souvenant de son chien du temps où il était encore ici, avec lui. Un jour, j'étais tout à coup si triste que je me suis levé et j'ai cherché le chien Giovanni du regard. Je voulais aller avec lui, sur la plage arrière, pour nous promener. Comme si je désirais montrer au vrai Giovanni que je m'occupais de son chien. Mais il n'était pas dans le poste, il devait être déjà dehors sur le pont. Je me suis recouché, et j'ai eu honte d'être aussi triste pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Et depuis ce jour-là, j'ai essayé d'arrêter de penser au vrai Giovanni, de m'imaginer qu'il était. Mais Giovanni, depuis, s'était lié à moi. sans que je l'aie voulu. Je crois qu'il me considérait comme son maître, parce que nous avions dormi ensemble. J'avais remplacé le vrai Giovanni, mais sans le vouloir. Parce que si on m'avait demandé si j'avais envie de remplacer le vrai Giovanni, j'aurais répondu non. Nous arrivions dans le poste d'équipage, c'était la même chose. Tout le monde se mettait à lui parler. Je l'installais devant ma couchette et j'allais lui chercher de l'eau. Ensuite, je retournais à l'infirmerie nettoyer le coin où il avait saigné, sous le regard de l'infirmier, qui n'avait rien à faire de toute la journée. Il me disait que la prochaine fois, ce serait moi qui achèterais la teinture d'iode et la poudre antiseptique avec mon argent. Et je pensais, pot de balle. Quand je revenais dans le poste, Giovanni dormait et plus personne ne s'occupait de lui et ne lui parlait. Il jouait aux cartes. Je suis endormi sans le vouloir. Et quand j'ai ouvert les yeux, je ne savais plus très bien où j'étais. Mais je suis revenu assez vite à bord. J'ai regardé ma montre pour savoir combien de temps j'avais dormi et combien il m'en restait avant de monter à la passerelle prendre mon car. Ma montre était suspendue à droite, sous mon cendrier, et je n'ai eu qu'à bouger les yeux pour lire l'heure. Car j'avais bien organisé ma couchette. À partir du jour où Giovanni n'avait plus dormi avec moi, j'avais eu envie de la rendre agréable, en accrochant autour de moi ce qui me plaisait et ce que je trouvais utile. Ce que j'aimais le plus, c'était un dessin comique que j'avais trouvé sur une carte marine. Quelqu'un de la passerelle avait dû le dessiner pour se passer le temps. Il représentait quatre porteurs noirs, marchant en file indienne, derrière un homme blanc. Ils avaient tous un énorme tas de bagages sur la tête, sauf l'homme blanc, bien sûr. J'avais découpé le dessin en douce et caché la carte sous les autres. La première fois que je les avais vus, ces noirs marchant tout seuls au milieu de l'océan, avec l'homme blanc devant eux, j'avais beaucoup ri. J'avais également une photographie de moi, à côté d'une femme énorme qu'on avait rencontrée un jour. Nous étions quatre ce jour-là, et chacun de nous a voulu se faire photographier à côté d'elle, en lui tenant la taille. C'était moins comique que les porteurs noirs, mais c'était drôle quand même, parce que la femme et moi, on souriait tous les deux comme si on s'aimait. Sauf qu'en réalité, elle et moi, on ne souriait pas pour les mêmes raisons. Tout d'un coup, j'ai eu une idée que j'osais à peine dire, parce que tout simplement, elle était ridicule. J'en ai même souri, et j'ai dit à Giovanni qu'à cause de lui, j'avais des idées ridicules. Cette idée ridicule de tout à l'heure est revenue, celle concernant le vrai Giovanni. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a paru moins ridicule cette fois. Je me suis redemandé pourquoi le vrai Giovanni n'écrirait pas à son chien. Il mettrait Giovanni sur l'enveloppe, le nom de notre bateau et l'adresse de l'arsenal, et c'est naturellement à moi qu'on donnerait la lettre. J'en étais certain. Dedans, il aurait écrit des expressions qu'il avait l'habitude de lui dire quand ils étaient ensemble à bord. Uniquement ces expressions. Qui peut dire alors que Giovanni ne s'en serait pas souvenu si je lui les avais lues ? Il aurait eu l'impression d'avoir devant lui le vrai Giovanni et ça l'aurait rendu heureux. Et moi, par la même occasion, je me serais senti moins triste et moins coupable en pensant au vrai Giovanni. C'était loufoque. Mais personne ne peut assurer que ça l'était complètement. Il était l'heure, et je suis monté prendre mon car. Dans la première coursive, la porte des lavabos claquait à cause du roulis. Giovanni a eu peur, et il n'a pas osé rentrer avec moi. J'ai bu dans ma main autant que j'ai pu. Ensuite, je me suis regardé dans la glace et je suis ressorti. Giovanni marchait devant moi, en allant d'un coin à un autre des coursives, toujours à cause du roulis. Nous croisions ceux du premier car, qui descendaient, se couchaient. L'officier en second a quitté la passerelle, et le lieutenant a dit assez fort pour que chacun de nous l'entende qu'il prenait le car. Là-dessus, Giovanni est venu se coucher contre les pieds de mon siège. Un moment après, le second maître glace s'est approché et il a failli lui marcher dessus. « T'es là, Giovanni ?» il lui a dit. « C'est drôle, mais tout le monde disait tout le temps les mêmes choses à Giovanni. » Avait dû réveiller Giovanni parce qu'il m'a rejoint sur l'échelle. Je l'ai aidé à descendre et je lui ai demandé s'il avait bien dormi. Je savais que c'était une question stupide comme toutes celles que tout le monde lui posait. Mais j'étais content d'aller boire et que ce soit bientôt la fin du quart. Dans peu de temps, j'allais dormir et j'étais d'humeur à lui parler. « Alors Giovanni ?» En bas de l'échelle, il a couru jusqu'au fond de la coursive et il est revenu. Il m'a touché la jambe et il est reparti. Je lui ai dit « Giovanni, maintenant je voudrais que tu arrêtes de chier n'importe où. » Arrivé au bord de la coursive, je lui ai dit « Si tu chiais par-dessus bord, on ne m'appellerait plus pour nettoyer. » C'était des blagues, mais il était content de m'entendre parler. Ça lui était égal que ce soit pour lui dire ce genre de stupidité. J'ai pensé pour plaisanter que ça lui rappelait peut-être le vrai Giovanni qui lui parlait toujours avec bonne humeur comme moi, à cet instant, et que c'était pour ça qu'il agitait autant la queue. J'étais fatigué, mais il me semblait que je n'avais plus sommeil. J'ai pensé au second maître glace et au lieutenant. Bientôt, ils enverraient quelqu'un pour me chercher. Malgré cela, je me suis assis, et j'ai posé la tête contre la cloison. Peu après, Giovanni est revenu. Il s'est avancé doucement et en ondulant à cause du roulis. Il s'est couché à côté de moi, sans me quitter des yeux. J'ai dormi un peu et j'ai rêvé. J'étais assis sur une planche, elle-même posée sur un seau rempli d'eau. Je noyais des chiots qui venaient de naître. Je sentais leur museau appuyé sous la planche pour la soulever. Ils étaient pleins de vie et ils cherchaient désespérément de l'air. Je tenais bon sur la planche. Et en même temps, je disais au lieutenant que c'était impossible que les rêves se passent en une fraction de seconde seulement, comme il l'avait prétendu une fois. Car car les chiots étaient dans l'eau depuis près d'une minute maintenant. Et ils n'étaient pas encore morts. Cette discussion sur la durée des rêves, nous l'avions réellement eue une nuit sur la passerelle. Quand je me suis réveillé, je n'ai pas tout de suite pensé au mécanicien et à ce qui venait de se passer. J'ai pensé à ma couchette parce que j'avais encore envie de dormir. Giovanni n'avait pas bougé de place, il se léchait les pattes. Ensuite, tout est revenu. Je me suis souvenu de tout. La mer et le ciel commençaient de s'éclairer. De la brume flottait en dessous de la lumière grise de l'aube. Giovanni avançait devant moi le long du rouf et le vent entrait dans ma vareuse. Je me suis assis sur le chômard, à l'arrière, et me suis allumé une cigarette. Giovanni a couru autour de moi, puis est allé faire un tour vers l'avant. Je trouvais qu'il faisait froid. Ma cigarette n'avait pas de goût et je l'ai jetée. J'ai pensé au café que Schaff buvait tout à l'heure et j'en ai eu envie. Quand le soleil s'est levé derrière la brume, j'étais encore assis sur le chômard. Giovanni était revenu de l'avant et dormait entre mes pieds, à l'abri. La lumière a changé et il a fait un peu plus froid. La brume s'est levée et les feux à l'arrière se sont éteints. Il y a eu soudain un peu plus de vent. Il sentait les pins. Nous n'étions pas loin de la terre. J'ai appelé Giovanni. J'avais envie de dire à quelqu'un que nous n'étions pas loin de la terre. Il a levé la tête, puis il l'a reposée sur ma chaussure. Il était fatigué. J'ai dit tout haut, « On n'est pas loin de la terre ?» Il a ouvert les yeux, mais il n'a pas bougé cette fois. Il m'a fixé un instant et a refermé les yeux. La nappe de brume montait lentement. Elle était blanche et on aurait dit de la neige. Des flocons transparents et très serrés. Et au moment où j'ai pensé à des flocons, j'ai vu derrière une porte des gens habillés de manteaux marcher dans la neige. J'ai essayé de me souvenir où je les avais vus, mais c'était sans doute mon imagination, parce que je n'ai pas réussi à faire coïncider dans ma mémoire une porte et de la neige. J'ai pensé alors que ça n'avait pas d'importance. Peu après, nous avons changé de cap. Nous avons pris le gîte et le sillage derrière nous a fait une longue courbe sur la mer. J'étais fatigué, la nuit était passée et nous manquions tous de bonté à bord. Alors je me suis mis à pleurer. Je pleurais sur moi, sur Giovanni et le vrai Giovanni. Puis j'ai joint les mains derrière la nuque et resserré mes bras sur les tempes. Et alors j'ai pleuré sur la mer de Boshi et sur toutes les mers qui ignorent combien nous souffrons.
Cette lecture de la nouvelle Giovanni, extraite d'Océan Pacifique, écrite par Hubert Mingarelli, vous a plu? Sachez que cet auteur, lauréat du prix Médicis en 2003 pour Quatre soldats, est l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages où on retrouve son style singulier. La musique qui accompagnait cette lecture est celle de Spiritual de Charlie Haden, extraite de son album Beyond the Missouri Sky. Nous remercions les techniciens Claude Michel et Yvan. Cette émission a été lue et préparée par Jacques et Anne. À bientôt sur Radio G.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Luttons ensemble contre la Covid-19. Téléchargeons l'application Tous Anti-Covid. Oh, franchement, vivement qu'on entende plus ce message. Ah non, vraiment. Alors s'il vous plaît, aidez-nous à nous en débarrasser. Comment? Eh bien, plus vous êtes nombreux à utiliser l'appli Tous Anti-Covid, plus elle est efficace contre le virus, et donc plus vite elle disparaîtra. Vous êtes déjà plus de 10 millions à avoir téléchargé Tous Anti-Covid, et ce n'est qu'un début. Ceci est un message du gouvernement.
Hey mommy, I know you want mommy. 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 Hey mommy, I know you want mommy.
She rockets so fast. She rockets so fast. She rockets so fast. Oh, lady, she don't know how she goes. She rockets so fast. She rockets so fast. She rockets like a babe. Hey, her image lasts, and I know she floats so long as she goes. She owns their eyes as she flies right through the sound, moving her body all around town. Hey, mommy. Hey, mommy. I know where you are. I know where you are, I know what you want. Sooner or later the dudes at bodegas will hold their lips and own this shit. Coming to terms on a shivery tip. But I hear her, she don't know the gravity she holds as she pulls on the eyeballs of all the kids standing tall.
Hey mommy, you know what you want.
She rockets so fast, she rockets so fast, she rockets so fast. Oh, my lady, she don't know how she goes. She rockets so fast, she rockets so fast, she rockets like a babe. Look at that ass, you know. She floats along as she goes. She owns her eyes as she flies right through the sound, moving her body all around town. Hey, mommy, hey, mommy, I know where you are. I know where you are, I know where you are. Sooner or later the pizza bodegas will hold their lips in on the shit. Coming to terms on a shivery tip. But I hear her, she don't know the gravity she holds. So she pulls on the eyeballs of all the kids standing tall.
Hey, mommy, I know where you are, mommy. Hey, mommy, I know where you are, mommy. Hey, mommy, I know where you are. Hey, mommy, you know you are mine. Hey, mommy, you know you are mine. Hey, mommy, you know you are mine. Hey, mommy, you know you are mine.
So you're a tough guy, like you really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy.
Duh.
www.radio-g.fr.
Bonne nuit.